With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, je souhaitais remercier du fond du cœur l'Agence de la biomédecine qui sponsorise deux épisodes d'Histoire de Daron. Ces deux épisodes ont pour but de vous éclairer sur la nécessité de donner vos gamètes, mais aussi et surtout, messieurs, de donner votre sperme. Vous aurez ici l'occasion d'écouter Benoît du côté receveur, ou plutôt du côté du couple receveur, et dans 15 jours, vous pourrez entendre Loïc, qui a donné son sperme, nous raconter ses motivations. Pour en savoir plus sur le don de sperme, je vous invite à aller voir sur le site www.dondespermatozoides.fr et le compte @jedonnemesspermatozoides avec un S bien sûr sur Instagram. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque premier et troisième lundi de chaque mois à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, j'aime ouvrir des voies. Voix VOIES, et grâce à mes interviews et à mes contenus, vous ouvrir des chemins sur l'univers de personnes que vous ne connaissez peut-être pas ou pas sous cet angle. J'aime aussi vous apporter des idées ou des concepts que vous n'aviez éventuellement pas encore imaginés. J'aime ouvrir le champ des possibles aux gens qui me suivent. Je fais donc des podcasts d'interview, mais je suis aussi en direct sur Twitch tous les lundis, les mercredis et les vendredis, et je vous propose également une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, sur @fabflorent. Vous retrouverez tous les liens et toutes les infos dans les notes de cet épisode. Allez cliquer pour découvrir l'intégralité de mon univers et surtout, abonnez-vous. Je suis heureux, grâce à Histoire de Daron, de pouvoir offrir une tribune à l'autre moitié de la population qui est souvent mise de côté et qui, faut le dire, n'a jamais trop fait l'effort de s'inclure aussi dès qu'on parle de parentalité, sujet pourtant ô combien universel. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête des pères? Comment redéfinir la paternité à l'aube de la deuxième moitié du XXIe siècle, alors que la société a tant changé depuis une dizaine d'années? C'est ce que j'essaie de vous offrir à travers mes interviews dans Histoire de Daron. Cette semaine, je reçois Loïc, qui est papa de 4 enfants et qui, de son côté, a donné son sperme. Loïc nous raconte son rapport au don d'une manière générale. Loïc donne son sang, par exemple, depuis ses 18 ans, mais aussi du plasma, et passe beaucoup de son temps dans le bénévolat. Quand sa femme a décidé de donner ses ovocytes, Loïc s'est dit qu'il pouvait également faire le don de ses gamètes. On discute avec Loïc de sa démarche aussi bien philosophique que des détails pratiques autour du don de sperme, et vous entendrez son émotion quand on évoque la possibilité qu'un jour, une personne puisse venir toquer chez lui en lui disant « Salut, tu es le donneur qui a permis ma conception, sans toi je ne serais pas là ». Loïc m'a beaucoup touché, j'espère qu'il vous touchera également. Un grand merci à lui pour son accueil dans leur maison du côté d'Annecy, et merci encore à l'Agence de la biomédecine d'avoir pu me donner l'opportunité de rencontrer un mec comme Loïc. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. Nouveauté lors de cette saison, je voudrais vous offrir la possibilité après chaque épisode de m'envoyer une réaction en message vocal. Je sélectionnerai un ou deux ou trois messages que je diffuserai à la fin de l'épisode suivant et peut-être même que j'y réagirai. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode ou envoyez-moi une note vocale par téléphone, pas plus de 3 minutes, sur l'email vocal@fabflorent.com. F-A-B-F-L-O-R-E-N-T. Je vous mets toutes les infos dans les notes. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle écoute. On est avec Loïc donc. Salut Loïc.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, très bien.
Merci beaucoup Loïc de m'accueillir chez toi, en pleine Haute-Savoie. Là. Qu'est-ce qu'on est bien dans la montagne.
Quelques paysages montagneux, un tout petit peu de neige qui résiste encore sur les sommets.
C'est clair. Loïc, c'est l'agence de la biomédecine, de biomédecine qui nous a mis en contact, dans la deuxième volée de mon OP avec eux sur, notamment autour du don de sperme, parce que toi, t'es plutôt côté donneur. Pour les gens qui ne savent pas, donc j'ai enregistré un épisode avec Benoît qui lui était plutôt côté du couple receveur. Donc vous pouvez aller voir dans les archives, je vous le mettrai dans les liens dans les liens que vous pourrez retrouver dans les notes du podcast. Je bug Et toi, de ton côté, donc t'es plutôt côté donneur. J'aimerais bien que tu vas nous expliquer un petit peu ton objectif, ta démarche, etc., pour essayer de faire connaître un peu mieux le don de sperme. Comme je te le disais là juste avant qu'on démarre l'interview, moi j'ai fait une vasectomie il y a 2 ans, et alors que j'ai l'impression d'être plutôt bien éclairé sur ce qui se passe d'une manière générale dans la vie. J'y ai pas du tout eu ce réflexe en fait, donc c'est vraiment un truc qu'il faut démocratiser aujourd'hui. J'aurais pu le faire, ça me coûtait strictement rien, c'était au contraire, et puis ça pouvait aider quoi, tu vois.
Oui, bien sûr, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le don de gamètes est un sujet un petit peu plutôt confidentiel, on peut dire. Hein. On entend beaucoup parler de don de sang, de don de plasma, hein, pour parler de tout ce qui est fluide corporel, on va dire. Et c'est vrai que la partie don de gamètes est plutôt quelque chose de très confidentiel, puisque forcément, ça touche à l'intime, bien évidemment.
Loïc, est-ce que avant qu'on aille plus loin, tu peux te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai aujourd'hui 36 ans. Je suis papa donc de 4 enfants, donc qui ont 8 ans, 6 ans et les dernières jumelles donc qui vont sur leurs 4 ans. Donc, la vie familiale est bien remplie. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un certain schéma de famille et puis de vie de couple, j'ai envie de dire. Donc notre vie en tant que reproducteur, couple de reproducteurs entre guillemets, est derrière nous et terminée avec beaucoup de satisfaction. Et maintenant, effectivement, on a pensé à la suite, donc notamment au niveau de toutes ces questions intimes de contraception dans le couple, avec cette notion effectivement de d'équilibre à refaire dans la vie familiale entre l'homme et la femme, entre les charges différentes apportées par les différentes par la femme et par l'homme dans le couple, et donc avec cette question fameuse de la contraception et de se dire pourquoi c'est la femme qui doit en permanence porter cette problématique de la contraception, alors qu'aujourd'hui il existe des moyens tels que la vasectomie pour les hommes pour porter cette charge un petit peu du côté masculin. Et du coup on arrive à finalement une réflexion de dire avant de faire cette vasectomie, est-ce que je peux faire encore quelque chose pour les autres de manière générale. Et puis donc du coup on arrive très rapidement sur les sujets de dons de gamètes. Donc aujourd'hui le don de gamètes, c'est vrai que dans notre couple il est arrivé principalement par mon épouse, donc il y a aussi une démarche de don d'ovocytes, donc il s'est passé quasiment en même temps que mon don de gamètes. Et il rentre aussi dans une démarche un petit peu plus logique, qui est de manière générale de se dire que dans le monde actuel, il faut essayer de faire ce qu'on peut au maximum pour aider les autres. Alors après, il y a bien évidemment tous les sujets de limites entre le temps, l'énergie que l'on peut consacrer pour les autres. Donc il y a des choses que certaines personnes ne peuvent pas faire. Mais évidemment, je ne pourrais pas partir 6 mois en mission humanitaire pour aider dans des pays en difficulté, puisque voilà, j'ai une charge familiale à assumer. Par contre, je sais que je peux donner d'autres choses. Donc aujourd'hui, je suis donneur de plasma, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Donc on le fait, on prend les rendez-vous. Des fois, on se force un petit peu, mais on fait ça pour les autres. Et puis, pareil, même réflexion un petit peu pour le don de gamètes. Qu'est-ce qu'on peut faire avant de passer à l'étape vasectomie? Effectivement, un don de gamètes, c'était quelque chose qui était envisageable.
D'accord. Donc, tu as subi une vasectomie de ce fait-là?
Alors, oui, tout à fait. Okay. Exactement. Le don de gamètes. Et puis après, il y a eu la vasectomie qui est intervenue quelques mois après.
D'accord.
Tout ça, c'était assez bien synchronisé entre
eux. Ok. Donc, toi, de ton côté, tu avais vraiment ce truc de venir dire. C'est déjà un truc que tu faisais, c'est ça, le don de sang, le nom du sang, etc., depuis des années?
Oui, tout à fait, oui. Le don de sang, j'ai commencé, hein, dans la sphère familiale, effectivement, mes parents étaient donneurs de sang, donc moi, c'est tout naturellement qu'à mes 18 ans, et peut-être 2 ou 3 semaines, ou 1 mois, j'ai effectué mon premier don de sang. Donc j'ai continué, et puis après, je suis allé vers le don de plasma, puisque j'avais juste la particularité, apparemment, d'avoir un plasma universel, qui n'était pas le cas pour mon sang, donc du coup, qui était pas mal recherché. Du coup, après, j'ai migré vers, effectivement, des dons de plasma, donc que je fais aussi régulièrement que je peux, pas autant que je voudrais, mais voilà, après c'est toujours cette limite entre le temps qu'on peut consacrer aux autres et puis la limite entre la sphère familiale et puis ce qu'on peut donner pour les autres.
Ouais. D'accord. Et donc cette démarche de don de sperme, ça t'est venu par l'intermédiaire de ta femme, tu disais, justement avant de faire cette vasectomie, c'est elle qui t'a mis la puce à l'oreille, c'est ça? Comment
Oui, exactement. Oui, tout à fait. Effectivement, mon épouse parlait du don d'ovocyte avant, effectivement, de subir une ligature des trompes hein, pour tous ces aspects contraception dans la vie de couple. Et donc, en fait, c'est tout naturellement que ben, je l'ai regardé. Et puis, visuellement, je lui dis ah bah oui, mais attends, pourquoi c'est pas moi qui porte déjà la contraception? Et puis, bien évidemment, il faut que je me renseigne sur le don de gamètes. Il y a pas de raison que je puisse pas le faire si ça peut aider d'autres personnes et d'autres couples en difficulté.
Ok, donc elle se renseignait de son côté sur la ligature des trompes, et toi tu t'es dit, bah, ce qui est quand même une opération lourde, enfin en tout cas plus lourde que la vasectomie, toi tu t'es dit, bah, t'occupes, je vais m'en occuper, je peux le faire en tout cas, c'est ça?
Oui, bien okay, sûr, d'accord. Tout à fait, oui. Ah ouais, exactement. Ouais.
Non mais c'est bien parce que c'est pas, enfin tu dis ça comme si c'était naturel, mais je pense pas que ce soit le cas quoi.
Oui, c'est
pour
c'est
en parler
ça,
un peu autour de moi, ouais. Quand c'est pas, les gens ont du mal avec, ouais. Avec l'idée quoi.
Oui, tout à fait, mais ça je le conçois totalement, mais aujourd'hui je pense qu'on est au 21e siècle, et enfin l'image du colosse viril qui a tout son taux de testostérone, je veux dire aujourd'hui elle est révolue cette image quoi, donc il faut qu'on avance dans le bon sens, on a vraiment un rôle à jouer quoi.
Ok, donc concrètement, comment ça s'est passé? T'as passé où est-ce qu'on appelle en fait une fois que tu décides de faire un don de sperme? Comment ça se passe?
Alors, il faut prendre contact avec les CECOS. Alors, je n'ai plus la dénomination. C'est les centres d'aide à la procréation en fait. Ouais. Donc, c'est eux qui centralisent tout ce qui est don de gamètes, hein, que ce soit côté féminin ou côté masculin. Effectivement, donc c'est une démarche en plusieurs étapes. Bien évidemment, il y a une phase de réflexion. Il y a bien évidemment tout ce qui est consentement. Et puis après, une fois que toute cette partie un petit peu administrative entre guillemets est terminée, donc on passe aux différents prélèvements. Et donc en général, il y a trois, quatre, cinq prélèvements suivant les facilités d'accès vis-à-vis du lieu où on se rend pour recueillir.
Donc tu y vas quatre fois, c'est ça, quatre ou cinq fois à différentes dates, c'est ça? Tu prends,
ok. Ouais, tout à fait, exactement. Il y a des rendez-vous effectivement et on se rend. Donc moi j'y suis allé, il me semble trois fois, quelque chose comme ça, puisqu'effectivement le centre était à 2 heures de route aller-retour, donc vis-à-vis oui, du travail, vrai. De la profession, voilà, j'ai cherché voilà toujours cet équilibre à essayer d'optimiser un petit
ça
peu au maximum.
Ça fait un bout de route, ouais.
Voilà, tout à fait.
Ouais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer aussi concrètement comment ça se passe, parce que il y a ce fameux truc, on l'a un peu expliqué dans notre, j'imagine que ça se passe exactement de la même façon dans le live sur la vasectomie, t'as le spermogramme aussi qui est un, j'imagine que ça se passe un peu de la même façon, tu te retrouves dans une salle un peu glauque, enfin faut l'expliquer aux gens, c'est pas forcément très très naturel aussi de se retrouver dans une salle où bah tu viens pour te masturber et pour finir par éjaculer dans une petite coupelle quoi, c'est pas forcément
Oui, bien sûr, oui, tout à fait quoi, mais bon, ça fait partie du procédé, et puis faut se faire l'idée quoi, c'est tout, c'est un acte. On est quasiment dans un acte médical entre guillemets, on donne un fluide corporel, il n'y a pas du tout de dimension sexuelle derrière tout ça, donc on fait complètement abstraction, au même titre que lorsqu'on vient pour faire un don de sang ou de ce plasma, au lieu d'avoir une aiguille, c'est nous qui procédons directement au prélèvement, mais ça s'arrête là, c'est du médical on va dire, hein, voilà.
Qu'est-ce qui fait selon toi qu'on a à ce point-là un truc compliqué avec le sperme plutôt qu'avec le sang quoi, tu vois?
Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est des millénaires entre guillemets d'évolution négative entre guillemets de l'homme, hein. C'est tout cet aspect virilité, hein. L'homme qui est censé donner, l'homme qui éjacule, c'est l'homme qui fait tout, hein, quasiment dans l'acte sexuel. Donc on a cette position qui est dominante, hein, qui est prédominante. On maîtrise tout, alors que lorsque justement effectivement on passe sur un don de gamètes, je pense qu'on n'est plus dans cette maîtrise, on n'est plus dans cette domination. On accepte peut-être on accepte d'être un peu plus humble entre guillemets quoi, et puis d'aider les autres tout simplement quoi, et puis de mettre de côté sa virilité au profit des autres. Je pense que c'est principalement une histoire de machisme, hein, de machisme et de virilité. Je pense que le mot est lâché, mais je pense qu'il
t'as le droit de dire.
Voilà, il s'agit de ça quoi. Il s'agit de ça quand j'en parle. Enfin, je sais que quand mon épouse en a parlé un petit peu autour de moi, j'étais super surpris et très très déçu de la part de certaines réactions, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris en fait ces personnes-là.
Donc, c'était quoi les réactions exactement?
C'était des réactions effectivement. Ça va mettre en cause ma virilité.
Tu parles de la vasectomie là ou?
Alors du don de gamètes.
Même
ouais,
du don.
Tout à fait. Ouais, même du don de gamètes ou de la vasectomie effectivement. Ouais. Alors excuse-moi. Oui, plutôt de la vasectomie. Excuse-moi.
Oui.
Ouais. Plutôt de la vasectomie effectivement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée, ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos-séries, des recos-ciné, des recos-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview.
Et par rapport au don de sperme, quand on parlait autour de toi, comment c'était quoi les réactions exactement ?
Alors, c'est vrai que je n'en ai pas forcément beaucoup parlé, j'avoue. Alors, je vois deux raisons, enfin plusieurs raisons même, on va pas se limiter. Il y a eu la problématique effectivement du Covid, déjà dans un premier temps, oui. Donc c'est vrai que les contacts sont très très limités pour parler.
Ça s'est passé pendant le Covid, c'est ça ?
Alors non, c'était juste avant, juste avant, mais effectivement ça fait 2 ans, donc durant ces 2 ans, il y a eu une année complètement blanche, effectivement. Mais après, c'est vrai que la première année, c'est vrai qu'il y a pas eu, on n'a pas énormément d'échanges, on n'est pas une famille à sortir tous les week-ends ou à inviter du monde tous les week-ends, on est six à la maison, donc effectivement
déjà
on a déjà un certain niveau d'animation. Mais après oui, c'est clair que c'est un sujet qui est très intime, donc c'est vrai que c'est pas évident d'amener ce sujet comme ça au milieu d'une discussion entre l'apéritif et puis l'entrée d'un repas. Donc c'est vrai que j'en ai pas parlé énormément. Alors quelques amis, quelques connaissances sont au courant. Dans ma famille également, alors j'en ai parlé qu'à mes parents, par exemple. Mes frères ne sont pas au courant de ces démarches.
Ah ouais.
Non, voilà, ils sont pas au courant de ces démarches.
Pourquoi ?
Alors parce que de manière générale, c'est vrai que j'ai relativement peu d'échanges avec eux. Aujourd'hui, on est une famille qui est éclatée, on va pas dire aux quatre coins de la France, mais entre l'Alsace, entre Paris, entre la Haute-Savoie.
Vous voyez assez peu de visu, quoi, en tout cas.
Exactement. Okay. Déjà de visu, on se voit très peu. Et puis, effectivement, on est en train de. Alors, je vais dire malheureusement, mais on est en train un petit peu chacun de faire sa vie de notre côté. Donc, il y a un petit peu ce lien familial qui est rompu. Mais donc voilà, c'est une raison pour laquelle c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, quoi.
C'est étonnant parce que j'ai un peu l'impression plus que tu as une démarche alors j'allais dire engagée ou militante, enfin tu vois, ne serait-ce que de venir en discuter dans ce podcast, c'est déjà un truc, quoi. Mais c'est plus compliqué autour de toi, parce que je crois aussi que l'une des raisons pour lesquelles ça se sait pas, c'est qu'il y a peu de bouche à oreille, et que de ce fait là il y a peut-être aussi des réticences, tu vois, de la part de gens comme toi qui ont donné, tu vois, de venir en discuter ouvertement. Mm-hmm. T'as senti aussi, toi, des freins de l'extérieur. Mm-hmm. Tu préfères pas expliquer parce que ça entraîne des discussions qui sont parfois un peu pénibles.
Alors non, pas forcément, mais je pense que le principe du don, un principe majeur du don, c'est de ne pas se servir de ce que l'on donne pour se mettre en valeur, et je pense que c'est un des freins, malheureusement, du coup, à tout ce qui est don général, hein, comme don de sang ou don de placement. C'est pareil, c'est un petit peu la même discussion. Je sors pas du, voilà, je suis pas du sang du genre à sortir de mon don de plasma en postant à Facebook aujourd'hui j'ai donné mon plasma, super, avec le pouce levé, voilà, faites tous comme moi, quoi. Aujourd'hui quand on effectue une démarche bénévole, hein, puisque c'est de ça, le but de la démarche, c'est de donner, mais sans se mettre en avant, quoi, tout simplement, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas de leçons à donner aux autres, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Donc c'est vrai que c'est compliqué de donner des leçons aux autres en passant des petits messages. Moi j'ai donné mes gamètes, et toi qu'est-ce que t'as fait? Donc voilà, donc je pense que c'est un peu délicat, quoi, effectivement.
Mais tu pourrais juste en parler, tu vois, sans venir dire et toi où est-ce que t'en es, quoi, tu vois.
Oui,
venir juste raconter, quoi, tout simplement.
Ouais,
comme t'es en train de le faire là.
Ouais, tout à fait, quoi. Mais effectivement, là je le fais là parce que je sais qu'on va on va toucher peut-être un public qui est peut-être déjà un petit peu présensibilisé, qui va découvrir, mais aussi qui va découvrir ce sujet suivant sa propre volonté. Là, si on a un auditeur qui a envie de couper le podcast, il appuie sur stop immédiatement et puis il passe à autre chose. Lorsqu'on est dans une discussion un petit peu plus physique, j'ai envie de dire, on peut avoir ces problématiques de blocage sur la discussion un petit peu plus compliquée. On peut être mal à l'aise vis-à-vis de ces sujets. Donc c'est vrai que c'est des sujets intimes effectivement qui sont peut-être un peu compliqués à aborder de visu.
Il y a un autre truc dont tu parles, c'est qu'effectivement tu dis que c'est un don bénévole. L'une des particularités de la France, c'est que quand tu viens donner tes spermatozoïdes ou tes gamètes d'une manière générale, on ne te rémunère pas. Ce qui est un peu différent, par exemple, tu disais que tu travaillais en Suisse. Je crois que la Suisse, par exemple, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais il rémunérait le don à chaque fois, quoi. Mm-hmm.
Oui, tout à fait, effectivement. Je ne sais pas si c'est le cas en Suisse. Je ne suis pas allé dans ces recherches-là.
J'ai un ami qui m'a raconté ça, justement, qui m'a dit qu'il y avait un de ses potes qui arrondissait ses fins de mois en faisant très régulièrement des dons, quoi.
Ouais, d'accord. Alors, je pense que c'est vraiment une question éthique derrière. Et je pense que la France est vraiment bien placée sur toutes ces questions éthiques. Et moi, je soutiens effectivement un don bénévole. Je pense que c'est l'essence même du don. Il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt financier derrière, quoi. Ça, c'est clair, quoi. Parce que, voilà, on va vers différents travers après, quoi.
Et tu as aussi, si je ne me trompe pas, un nombre limité de fois où tu peux donner en France.
Alors, oui, il me semble que oui. Alors, pareil, je n'ai pas creusé, puisqu'effectivement, par rapport au don de gamètes masculins, il n'y a pas de souci de quantité de spermatozoïdes. Dans un géniculaire, il y en a des millions, donc il n'y a pas cette problématique-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a une limite. On ne peut pas donner plus qu'un certain nombre de fois. Ouais, tout à fait.
Je vous redirai ça dans le montage, parce qu'en général, ce que je fais, c'est que je fais des petites notes de montage, tu vois. Ok. Attends, l'autre chose dont je voulais te parler aussi, c'était... Ah merde, parfois je bloque. Ah oui. J'imagine que tu as vu, mais il y a une nouvelle loi de bioéthique qui est sur le point de passer. Alors si je ne me trompe pas encore une fois, mais en gros, en tant que donneur, tu vas avoir la possibilité... Alors jusque-là, si je ne me trompe pas, en tant que donneur, tu restais anonyme. Et là aujourd'hui, il va y avoir la possibilité pour les enfants en fait qui sont issus de ce don de pouvoir retrouver ta trace un peu plus facilement en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que donneur, justement?
Effectivement, quand j'ai donné, cette loi était en cours de discussion ou en cours de votation dans les différentes chambres. Maintenant, moi, sur tous ces sujets de loi, je fais confiance au gouvernement parce qu'il y a un principe qui ne change absolument pas, même dans cette nouvelle loi et j'espère dans les futures lois à venir, c'est que vraiment, effectivement, il y a une filiation génétique, mais ça s'arrête là. Voilà, il n'y a absolument pas de filiation par rapport à tout ce qui est lien familial, tout ce qui est héritage, famille, etc. C'est uniquement une filiation génétique. Donc ça, c'est un principe strict, effectivement, sur lequel je n'aurais pas transigé, puisqu'effectivement, on donne de soi, on donne du génétique, et c'est tout, ça s'arrête là. Après, voilà, comme je disais, je pense que je fais confiance au gouvernement. Je sais pas si ça... Je sais pas si ça va freiner les dons, je sais pas si ça va les augmenter. On peut vraiment avoir les deux hypothèses. On peut éventuellement avoir un frein avec certaines personnes qui vont se dire non, mais moi j'ai absolument pas envie d'avoir le toc 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 un jour à la porte dans 20 ans. Et puis on en a d'autres qui peuvent avoir un peu de piquant dans la vie et puis se dire pourquoi pas. Je suis plutôt dans cette deuxième catégorie d'avoir un peu de piquant dans la vie. et puis voilà, d'avoir ce toc 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 un jour et puis la petite larme qui coule en me disant bonjour, bienvenue chez moi, viens, je te présente à ma famille, etc. Et puis on partage les parcours, on échange.
C'est un truc que que tu pourrais envisager, quoi, sans problème.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est même quelque chose qui m'enchante, parce que c'est la fabuleuse histoire de la vie, entre guillemets.
On a beaucoup justement parlé avec Benoît de la filiation. T'es ému un peu?
Oui, hein, tout
pardon,
à fait,
ok. T'es un peu en contre-jour en fait, donc j'ai du mal.
Bien sûr, non, pour y a l'émotion.
Qu'est-ce qui fait que ça te touche comme ça?
Mais parce que c'est, comme tu disais, c'est l'histoire de la vie, tout simplement. Donc il n'y a rien de plus beau, effectivement, ce toc-toc-toc. Et puis voilà, et d'avoir une personne qui a 20, 25 ans, qui débarque effectivement sur le pas de ta porte, et puis qui te dit quelque part. Alors, C'est pas qu'il te dit je suis là grâce à toi, parce que dans la vie de cette personne, dans les 20-25 ans qu'elle aura vécu avant de rencontrer son géniteur, biologique, merci. Effectivement, il aura une toute petite part, quoi, mais vraiment ridicule, quoi. Et tout le reste, c'est son papa et sa maman, quoi. Mais effectivement, rien que d'avoir cette petite part, c'est quelque chose de beau, quoi. Ouais.
Et ça te touche.
Oui, bien sûr.
Ouais. Ok. Non mais c'est intéressant de. Je pense que je crois que de l'autre côté, comme tu disais, je crois qu'il y a plein de pères de mecs potentiels, de géniteurs potentiels, comme tu dis, biologiques, qui pourraient se dire mais moi j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation là, d'avoir un parfait inconnu en fait avec qui j'ai eu aucune part dans l'éducation, ouais, d'une manière générale, ouais, qui vient toquer chez moi, quoi. Tu
Bien
vois,
sûr.
Dans, ouais, l'autre sens.
Ouais. Alors, un des autres principes du don aussi, c'est lorsqu'on donne aussi, on accepte de recevoir, je pense. Voilà. Donc c'est alors après le recevoir dans un don, c'est pas quelque chose que l'on attend, que l'on est en mesure d'attendre à tout prix, mais effectivement ça peut faire plaisir. Voilà, quand on donne un service à quelqu'un, ben ça fait plaisir d'avoir un merci, ça fait plaisir peut-être d'avoir un service rendu à un autre moment, effectivement dans cette grande famille qu'est les hommes, hein, tout simplement. On est là pour s'entraider, on est les hommes vivent en société. Donc on est là aussi pour se rendre un petit peu service mutuellement. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, lorsqu'on donne, ben, peut-être qu'on s'attend un petit peu, quelque part, une mini part de soi, s'attend à dire ben, qu'est-ce que ça a donné ? Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce que la graine que j'ai plantée, là, on parle de graine, oui, au vrai sens du terme, pour le coup, mais qu'est-ce qu'elle a donné ? Est-ce qu'elle a bien germé ? Ou bon, ben non, est-ce que la vie en a décidé autrement ? Voilà, c'est un petit peu ça aussi, okay, peut-être.
Non, merci pour ça, c'est très intéressant d'avoir ton témoignage. Merci aussi pour tes larmes, c'est cool de te laisser gagner par l'émotion, c'est trop bien. Ce que je voulais te dire, c'est que est-ce que tu as, de ce fait-là, toi, eu la possibilité de venir dire, alors même que tu as fait ton don avant cette loi, la possibilité de te dire, bah, moi, si la personne qui va venir de mon sperme veut venir me contacter dans quelques années, donc c'est après 18 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas, c'est...
Il me semble que c'est quelque chose comme ça, oui, à la majorité, effectivement, la personne a le droit d'avoir accès à ses origines, ouais, je crois que c'est ça.
Tu as donné ton consentement, toi, de ce fait-là, pour que cette personne puisse venir toquer chez toi ou pas ?
Alors, écoute, il me semble que moi, lorsque j'ai réalisé, donc cette loi n'était pas encore promulguée, hein, okay, donc il me semble que j'étais pas concerné.
Okay.
Par contre, j'avais une clause, effectivement, dans mon consentement, il me semble que j'avais une interdiction morale de chercher à savoir quels étaient potentiellement mes descendants, mais quels étaient potentiellement les enfants qui étaient nés effectivement de mon don de gamète. Et ça, effectivement, vis-à-vis de tout ce qui est test ADN aujourd'hui, hein, qui sont très très répandus,
sont interdits en France, mais qui existent par internet, quoi.
Voilà, exactement, voilà. Quoi, l'interdiction, elle s'arrête pas aux frontières, hein, aujourd'hui, hein, donc c'est une interdiction purement factice. Donc c'est pour ça que je parle d'une interdiction morale, effectivement. Donc il me semble bien que j'ai cette interdiction morale de chercher à rentrer en contact effectivement avec les futurs enfants potentiels.
Ce qui est plutôt faire en fait juste pour les enfants, quoi, qui ont pas demandé.
Oui, tout à fait, exactement, quoi. Oui, exactement, quoi. Il faut que lorsqu'on se rencontre, il faut que la rencontre soit réciproque, hein, soit souhaitée réciproquement, ouais, tout à fait.
Ouais. Ok, ok. Ouais. Comment ça ? Est-ce que à un moment donné cette philosophie que tu as, toi, par rapport aux dons notamment, tu sais, alors don de sperme, don de vient se répercuter dans ta vie de papa avec tes enfants biologiques pour le coup.
Alors, pas évident de répondre, parce qu'effectivement, ils sont plutôt petits, hein, 8, 6 et 2 fois 4 pour les jumelles, donc c'est vrai qu'on n'aborde pas du tout ces sujets-là. Après, de manière un petit peu plus cachée, j'ai envie de dire. Alors, je pense que, oui, ça fait partie un petit peu peut-être d'une politique d'éducation familiale, on va dire, qui est d'apprendre aux enfants, ben, d'essayer de donner et de pas de recevoir uniquement, quoi. Donc, suivant les comportements, on y arrive ou pas, suivant les enfants et suivant leur tempérament. Voilà, mais effectivement, je pense que ça fait partie d'un souhait d'éducation générale, de faire comprendre qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, on essaye d'évoluer dans un monde où, comme je disais avant, on vit en société, donc on a des interactions avec les uns et les autres, et ces interactions, autant essayer de faire ce peu qu'elles puissent être le plus positif possible et le plus intéressante dans cet échange mutuel, quoi.
Est-ce que vous avez fait ce coup de vouliez faire un petit troisième et de cette là vous en avez eu deux, c'est ça, vous êtes passé de deux à quatre.
Alors exactement, tout à fait. On a eu cette fabuleuse histoire, voilà, et c'était génial. Hein. J'ai eu des larmes effectivement qui ont coulé il y a 5-10 minutes. J'ai eu les mêmes larmes qui ont coulé lors de la visite au gynéco quand ils nous ont annoncé qu'il y en avait deux. Donc grosses larmes de plaisir et de joie intérieure. Après là, ça s'est vite transformé en peur quand le gynéco a annoncé on va regarder si on n'a pas un troisième. Là effectivement, alors on aura du mal à le visualiser dans le podcast, mais j'ai changé de figure et je suis passé un peu blanc, quoi, parce que je me suis dit de 2 à 4, ok, il n'y a pas de souci, on va gérer, on en a deux, on sait comment ça marche. 2 à 5, on va gérer aussi, on n'aurait pas pu les revendre, hein, ça n'existe pas. Mais, voilà. Mais c'est vrai que voilà, un petit coup de chaud, effectivement. 2 à 5, ça aurait été un petit peu tendu peut-être, quoi, mais on se serait adapté comme tout le monde, quoi, bien évidemment, quoi.
Est-ce qu'il y a un sujet dont je t'ai pas parlé par rapport notamment au don de sperme que je t'ai pas abordé, que t'aurais aimé parler, dont t'aurais aimé parler dans cet épisode?
Alors, j'ai pas l'impression. Après, on a dans la démarche, on n'a pas forcément évoqué les différents entretiens. Alors effectivement, il y a l'entretien avec la psychologue, effectivement, puisque c'est un projet avant tout psychologique, j'ai envie de dire. Il faut qu'on soit mûr dans sa tête, hein, franchir toutes ces étapes, hein, au-delà du simple don de fluide corporel. Il faut qu'on soit prêt psychologiquement. Donc effectivement, il y a un entretien avec la psychologue, hein, durant lequel on aborde tous ces sujets, notamment tous ces aspects filiation et durant lesquels il faut vraiment être clair dans sa tête en se disant qu'on donne du matériel génétique. Voilà, on donne du matériel génétique et ça s'arrête là. Et on ne donne pas de l'amour, on ne donne pas une famille, on donne vie d'une certaine manière à travers ce matériel génétique, hein, on peut pas dire le contraire, mais la vie à proprement dite au sens humain du terme, elle est donnée par le papa et la maman. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important, je pense, à comprendre pour tous les futurs donneurs potentiels qu'on espère convaincre, c'est que vraiment, on s'arrête à du matériel génétique et tout le reste, c'est du ressort du futur papa et de la future maman.
C'est très intéressant le parallèle que tu fais, que tu parles de filiation justement, parce que en ayant interviewé Benoît, qui lui, de son côté, est stérile, si tu veux, il a dû retravailler, lui, de son côté, tout l'aspect de la filiation, parce que justement, dans sa tête, la filiation, c'était aussi un truc génétique, si tu veux, et il s'est rendu compte, dans son chemin, que la filiation pouvait avoir plein d'autres aspects, quoi. Et c'est vrai que c'est un sujet auquel, tant qu'on n'y est pas confronté, en fait, c'est compliqué de le travailler, quoi.
Ouais, bien évidemment, effectivement, ça c'est très intéressant comme sujet aussi à aborder. Ce genre de sujet, on ne peut le comprendre que lorsqu'on a plusieurs enfants. Je pense que c'est un minimum de deux ou trois ou voire plus d'enfants. Et effectivement, on comprend que effectivement il y a une filiation génétique. Donc il y a notamment les traits de caractère, les traits de ressemblance physique, mais il y a tout ce qui est à côté. Et tout ce qui est à côté, j'ai envie de le résumer par toutes les valeurs quand on va transmettre à l'enfant, tous les aspects effectivement d'éducation. Et alors j'aurais du mal à donner un pourcentage, hein. Pourtant effectivement je travaille dans l'informatique, donc je suis plutôt binaire, mais voilà, je pense que c'est vraiment, je sais pas si on pourrait dire que c'est une part prépondérante, tout le cadre éducatif de l'enfant, toute cette partie là tout ce qu'on construit autour de l'enfant vis-à-vis de la graine d'origine, je pense qu'il y a vraiment une énorme part qui vient du cadre que les futurs parents donnent à l'enfant. Et ça c'est vraiment très très important, effectivement. Et j'ai envie de dire que peut-être plus en grandissant, plus l'enfant va grandir et plus l'enfant va être capable, et les parents bien évidemment vont être capables de faire grandir ce cadre, de bouger les murs à l'intérieur de ce cadre, alors que finalement la filiation génétique à proprement dit, elle, tu peux pas la changer. Voilà, donc c'est vraiment la partie la plus intéressante, j'ai envie de dire, dans la vie familiale, dans l'éducation des enfants. C'est ce qu'on vit aujourd'hui avec notre grand, par exemple. On sait qu'aujourd'hui, voilà, son tempérament, il est comme ça. On a beau faire ce qu'on veut, on a beau y apporter tous les efforts, s'énerver des fois autant qu'on peut, mais on sait que ça ne change pas. Donc
tu veux dire que vous avez parfois du mal à vous reconnaître tous les deux en tant que parents dans son comportement, c'est ça?
Alors non, au contraire, on se reconnaît très bien, quoi, dans un comportement négatif. Donc voilà.
Il a 9 ans, c'est ça?
Alors, il a 8 ans. Il a 8 ans. Voilà, 8, 6 et 4. Et donc, voilà, il a 8 ans. Donc, effectivement, on se rend compte qu'on bute sur des problématiques de comportement qui sont héritées génétiquement. Donc, que ce soit de mon épouse ou de moi, sans rentrer dans les détails, ouais. Peu importe. Et on se rend compte que ce cadre génétique, finalement, on peut rien y faire, quoi. Par contre, on peut essayer de travailler tout autour et de construire finalement une meilleure maison, entre guillemets, à partir d'une graine d'origine, j'ai envie de dire, quoi. Voilà. Et je pense que c'est voilà pour les futurs papas effectivement qui s'engagent dans cette démarche d'être receveur et d'avoir un projet de couple effectivement avec du matériel génétique de quelqu'un d'autre, avec le spermatozoïde de quelqu'un d'autre. Effectivement, je pense que bien sûr l'enfant ne ressemblera peut-être pas, il aura pas ses traits physiques, il aura peut-être pas des traits de caractère. Par contre, le futur papa aura tout le loisir de travailler sur le cadre extérieur. Et là, il y a du boulot quoi déjà quoi.
Ceci dit, pour préciser un peu, mais les sécos font en sorte d'avoir un travail génétique, tu vois, d'avoir une ressemblance la plus proche possible, en fait, tu vois, par rapport au donneur, quoi.
Bien sûr.
Au receveur, quoi.
Ouais. Bien sûr, oui, tout à fait. Dans les différents entretiens, effectivement, on est scruté un petit peu de la tête aux pieds, la taille, le poids, la couleur des yeux, les cheveux, la forme du visage, etc. Donc, bien évidemment, pour éviter d'avoir des petits soucis de ressemblance physique après pour les futurs enfants qui naissent, bien évidemment.
Écoute Loïc, si on a fait le tour, je te remercie. Vraiment, c'était vraiment très chouette d'avoir effectivement l'autre côté du miroir en fait dans cet échange en fait. Et Benoît me disait que c'était important parce que sans donneur en fait, lui aujourd'hui il aurait pas une famille, il a 2 enfants, tu vois. Et c'est vraiment génial d'avoir entendu ton témoignage par rapport à ça. Et tu vois, je regrette de pas avoir eu ce réflexe-là à l'époque. Donc si jamais demain vous avez la possibilité de le faire, chers auditeurs, n'hésitez pas quoi, c'est cool.
Voilà, tout à fait.
Merci à toi.
De rien, merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin de cet épisode. Vous avez peut-être entendu que désormais, vous pouvez m'envoyer une note vocale pour réagir à mes épisodes de podcast. Voici donc là où les réactions à l'épisode précédent qui m'ont été envoyées grâce au lien que vous trouverez dans les notes de cet épisode ou alors tout simplement en faisant une note vocale sur votre téléphone et que vous m'envoyez par mail sur vocal@fabflorent.com. Fabflorent, ça s'écrit FabFlorent.com.
Salut Fab! Merci de nous donner la possibilité d'être passionnés pendant une heure par un sujet qui, a priori, ne nous concernait pas du tout. En tout cas, c'était le cas pour moi, en écoutant l'épisode de Benoît. J'ai appris plein de choses. Benoît est quelqu'un de très touchant. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter raconter son histoire. Et puis surtout, je voulais te remercier aussi de donner la parole pendant une heure à tes invités en les écoutant avec bienveillance. En les laissant parler, en leur signifiant aussi quand tu n'es pas forcément d'accord avec eux. C'est un réel plaisir de t'écouter et je voulais te dire que ton podcast a été une petite bulle de plaisir pour moi depuis la naissance de ma fille, il y a 2 ans et demi. Même si a priori, voilà, je me disais qu'un podcast qui mettait en lumière les darons, c'était pas forcément pour moi. Et puis finalement, c'est hyper intéressant d'entendre le point de vue des papas, de découvrir plein de nouvelles choses, de les écouter parler de sentiments très intimes, voilà, et de partager avec eux un petit bout de leur histoire. Merci pour ça, Fab. Merci pour ça, Fab. Merci pour ça, Fab. Merci pour ça, Fab.